Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Dans le cours précédent, nous avons visité un certain nombre de sites qui, d'un côté, étaient passionnants, mais de l'autre, étaient parfois décevants, puisque les fouilles ont été faites depuis longtemps, ou parce que la splendeur des objets découverts a fait passer au second plan la publication des plans, coupes et descriptions qui sont mon aliment dans ce genre d'études. Et il faut espérer qu'un certain nombre de ces sites vont rattraper bientôt ce retard. Nous étions passés de l'Oise vers la Moselle, vers les sources de la Seine, d'abord chez les Séquanes, ensuite vers la Moselle où nous avons visité un sanctuaire d'Hercule associé à des sources, à des nymphes, dont des eaux divines, attestées par une inscription, où nous avons bien retrouvé de nouveau, à chaque fois, de façon plus ou moins claire, suivant l'état des plans, la bipartition des espaces, la zone sacrée d'un côté, avec les sources, avec les temples éventuellement, et puis la zone profane, qui est à l'extérieur de la zone sacrée, avec ses installations utilitaires. Nous avons vu en Gaule, aux sources de la Seine, notamment, et à Chamalières, où on a, semble-t-il, seulement le bassin de la source et ses abords immédiats, nous avons trouvé de splendides ex-voto qui montrent tous les aspects que les nymphes ou les divinités des eaux pouvaient traiter, c'est-à-dire le bien-être des individus, du corps, mais aussi certaines affections indubitablement attestées. Ce qui est étrange parce que, par exemple, les sources de la Seine sont une source, disons, qui n'a rien pour elle du point de vue médical, mais je vous ai dit de penser à ce propos au clitumne, qui est aussi froid et simplement salubre, mais qui devient ensuite un grand fleuve, ce qui a toujours pu être dans l'imaginaire une raison de la force qui est dans l'eau, etc. Nous avons ensuite commencé à visiter, encore un plus vers l'est, chez les Trévires, un premier sanctuaire de hauteur situé à près de 700 mètres, Horscheid, qui dépend d'un vicus où nous avons très clairement les deux secteurs séparés même par un ruisseau, par une source, le temple et le lieu de culte d'un côté autour de la source et puis la partie utilitaire, portique, terme et lieu de repos ou de séjour de l'autre. Dans la même cité des Trévires, nous pouvons visiter deux autres sanctuaires, comme je l'avais dit en concluant, celui de Wallenborn et celui de Nidalfdorf, qui sont plus petits, mais qui ressemblent fortement à celui de Horscheid, même si l'un des deux est privé, ce qui ajoute à l'intérêt. Le lieu de culte de Wallenborn, près de Heckenmünster, est situé à 20 km à l'est de Trèves. Vous voyez, Trèves se trouve ici, Wallenborn par ici, et près du vicus de Beda, Bitburg. Ce site comprenait trois sources, sans doute, comme aujourd'hui. Ces sources ont d'ailleurs été exploitées, comme celle de Horscheid, encore au XIXe siècle. L'une d'elles est une source d'eau froide, légèrement salée et soufrée. Les deux autres sont des sources froides, bouillonnant sous l'effet du gaz et à forte teneur de soufre, comme encore aujourd'hui à Wallenborn, n'est-ce pas? Vous pouvez voir cette source froide qui bouillonne comme cela. Le lieu de culte est très joli. Il est entouré au plein milieu de la forêt d'un enclos général. Vous voyez ici, n'est-ce pas? Ça, c'est le lieu de culte, c'est la zone sacrée, qui est très bien marquée dans ce cas-là, qui comporte trois temples, ces deux temples classiques gallo-romains, et puis un temple hexagonal, et puis trois trous d'eau, Trois trous d'eau, vous pouvez les voir, un ici, un là et un là. Il y en a même quatre, mais je ne compte pas celui qui se trouve sous le bâtiment polygonal. Le premier temple, le temple A, qui est le plus grand des deux, jouxte une des sources soufrées, qui se trouve ici. Il s'agit d'un temple à galerie, dont on ne peut rien dire d'autre, étant donné son état au moment de la découverte. Vous voyez, les traits noirs sont assez peu consistants. Il était très détruit par les exploitations récentes de la source. Il s'agit d'un temple à galerie. Voilà. Et un peu au sud se tient un deuxième temple que vous voyez ici, également à galerie, mais de taille mineure. Il est pourvu d'un escalier qui donne sur l'est et un peu plus au sud, à l'est, se trouvait un empierrement qui paraît appartenir à ce deuxième temple, n'est-ce pas, avec ses marches. Et par là, il y a un empierrement devant ce temple qui paraît appartenir à un autel. Cet empierrement contenait une monnaie remontant à Marc Aurèle. Donc ça nous situe les aménagements, la fréquentation, au moins à l'époque de Marc Aurèle, au milieu du IIe siècle. Au sud-ouest, un édifice intéressant, hexagonal, comme on en trouve beaucoup dans le secteur, termine la rangée des temples. Seules les fondations sont conservées. Les fouilleurs ont proposé, d'après d'autres exemples, de restituer en élévation sept colonnes soutenant un toit. Sous ce dais, ils ont découvert un trou circulaire. Celui-ci a été réaménagé au XIXe siècle lors de l'exploitation de la source, mais son existence et sa forme sont clairement attestées à l'époque romaine. Un autel se dressait... Oui. Un autel se dressait... Je ne sais pas ce qui se passe. Un autel se dressait... toujours pas, ça ne fait rien, c'est pas grave. Un autel se dressait à environ 6 mètres vers l'est. On notera que cet autel possédait une orientation tout à fait divergente de celle des deux temples précédents qui correspondait en gros aux points cardinaux. Tout à fait vers le sud-ouest, donc vers la gauche du plan que je vous ai montré, existaient deux autres trous d'eau dont l'un, voilà, je suis allé déjà trop loin, voilà le deuxième autel. Vous voyez, il est là, il a une autre orientation que les temples, et on imagine que donc il avait son existence propre. Est-ce qu'il était lié à ce temple? C'est vraisemblable, on ne le sait pas trop. Il y a donc deux autres trous d'eau, dont l'un était à nouveau couvert par un toit reposant sur des colonnes. L'ensemble de ces bâtiments, qui datent de la fin du 1er siècle et qui sont encore en fonction au 2e siècle, au 4e siècle de notre ère, sont relativement petits, ce qui peut renvoyer à un statut mineur du site, mais quand on regarde l'ensemble, n'est-ce pas, j'aurais quand même tendance à dire que la modestie relative des bâtiments n'exclut pas un équipement assez riche qui a été conservé en raison de l'abandon complet de la zone. On y a trouvé de nombreuses inscriptions, et je ne suis pas sûr de si je n'ai pas sauté quelque chose à ce point. En fait, je devais vous parler des trous d'eau ici, et j'étais déjà passé à un autre site, excusez-moi. Vous avez vu que ce trou d'eau auquel on était arrivé, la troisième source, était couverte d'un toit comme les bassins de Deneuvre. Voilà, c'est cela que je voulais vous dire. Il s'agit peut-être des bassins où les visiteurs pouvaient accéder aux sources, mais dans la mesure où l'archéologie n'a pas donné des ex-voto dans tout ce secteur, on a juste les autels, les fragments d'autels et les traces cultuelles, il se peut que l'eau, et c'est mon opinion, n'ait été disponible qu'à l'extérieur de cette limite. Donc je mettrai tout ceci dans la zone sacrée et je ferai commencer la zone profane à cet endroit. Et effectivement, quand vous prenez un peu de recul, vous voyez que c'est devant cet enclos que vous avez tout un équipement assez riche, finalement, du site, qui est certainement, malgré la taille relativement petite des temples, un endroit public. Donc il y a d'autres bâtiments ici. Vous voyez, il y a des portiques, par exemple. Il y en a deux, il y en a même plus qu'à Hochscheid. Il y a des bâtiments qui peuvent être des hospitalia, et ici, il y a des thermes également, toujours, qui devaient utiliser l'eau de ces sources, évidemment. Et puis, vous trouvez, c'est intéressant, ici, et également ici, des exèdres, c'est-à-dire des murs en forme de U, des murs entourant un banc en forme de U, où pouvaient siéger des corps constitués, par exemple, un collège, les vicani, les représentants du vicus, ou même les autorités centrales des trévires, des délégués de pagus, de circonscription territoriale, comme ici à Trèves, devant le temple de Lénus Mars, où les délégués de Pagi étaient assis devant le temple, siégeaient pour se constituer, pour décider, ou je ne sais quoi, dans ce genre de banc. Tout cela montre que l'existence de plusieurs de ces exèdres montre qu'il y avait sur place réunion de groupes ayant des attaches particulières avec ce lieu et des groupes constitués. D'autres bâtiments, je vous l'ai dit, sont, voilà comment on se représente ces exèdres à Trèves. D'autres bâtiments sont interprétés comme des logements, des hospitalia, comme à Hochscheid. Les portiques, vous les avez vus. Et puis l'une des particularités du site de Wallenborn, c'est que la zone sacrée comprenait également un théâtre, c'est-à-dire en fait, suivant l'usage local, une tribune construite devant laquelle ensuite s'asseyait ou se tenait debout le public, sur des sièges, sur des bancs, etc. Et vous savez que les théâtres sont importants près des lieux de culte, non seulement pour des réunions, comme on le dit parfois, mais surtout parce que les grandes fêtes qui étaient célébrées consistaient souvent en ludis, en jeux. Et les jeux, c'était souvent des jeux de scène, des jeux de musique, des jeux de pantomime ou de théâtre. Et les exèdres, avec ce théâtre, et le nombre d'édifices me font incliner, je l'ai dit, vers un sanctuaire public, comme pour celui de Hochscheid, peut-être plus modeste, et qui était sans doute aussi géré ici par les vicani du vicus voisin de Beda, Bitburg, à l'exemple de celui de Hochscheid, qui, en général, on considère, était géré par le vicus de Belgino. Le troisième de ces lieux de culte dont j'avais commencé il y a une minute à vous parler, était situé un peu plus bas, vers Sarrebruck, près de la frontière française, donc Sarrebruck est par ici, et près de Saint-Louis. Et le site lui-même se trouve aux alentours de Nied-Altorf, plus exactement à Inn. Il s'agit certainement d'un sanctuaire de source, puisque la source, comme à Heckenmünster ou à Hochscheid, jaillit sous un temple devant lequel se trouvaient des dédicaces. L'originalité de ce lieu de culte réside dans son statut, puisque tout semble indiquer qu'il s'agit d'un sanctuaire privé situé dans l'emprise d'une villa. Vous avez ici un secteur économique de ferme. Vous avez ici, ce n'est pas des hospitalia, c'est vraiment une villa, n'est-ce pas ? Et l'ensemble est très petit, et il s'agit vraisemblablement d'un site privé. Voilà donc toute la zone. Le secteur qui nous intéresse, et qui se trouve entre la villa et la Pars Rustica, au centre, comporte plusieurs bâtiments entouré, comme à Wallendorf, Heckenmünster, d'un enclos, d'un mur. À l'entrée, le visiteur trouve à sa gauche un petit bâtiment carré, un petit temple, pourvu au sud d'un auvent, qui n'est pas visible là, et qui ouvrait vers le sud. En allant toujours vers le sud, il rencontrait un bâtiment rectangulaire, ouvrant à l'est par une ouverture située dans l'angle sud-est, qui est décalé donc de l'entrée, ce qui est assez étrange. En continuant toujours, il trouve un édifice octogonal comprenant un bassin de source, ça vous rappelle quelque chose, et encore plus au sud, un petit puits hexagonal qui est encore lié à la source, évidemment. Les deux édifices à bassin constituaient en une petite fondation. Donc voilà comment on se le représente, n'est-ce pas? Vous avez les deux puits, la fontaine de Sirona, une salle et le temple carré. Et donc les bâtiments à bassin contenaient une petite fondation et sur laquelle appuyait ensuite, bon c'est très détruit, mais ici on le voit, il y avait une sorte de margelle et puis de bordure sur lesquelles reposaient des colonies soutenant un toit. L'ensemble de ces bâtiments qui datent de la fin du 1er siècle et qui sont encore en fonction au cours du 4e, toujours, sont relativement petits, ce qui, à mon avis, indique qu'il s'agit de bâtiments privés. Mais, comme je l'ai dit, la modestie relative des bâtiments n'exclut pas un équipement assez riche qui a été conservé en raison de l'abandon complet de la zone. On y a trouvé de nombreuses inscriptions et fragments de statues, ce qui nous manque en grande partie à Wallenborn, par exemple, où le site n'a malheureusement pas été abandonné, qui font de ce site, de ce petit site privé, un des plus riches de Treviri en statuaire et en inscriptions. Cela nous montre d'ailleurs en passant que le statut privé ou public d'un lieu de culte n'implique pas forcément richesse ou pauvreté, archéologique je veux dire. Les deux types de lieux de culte reçoivent les mêmes équipements et les mêmes dédicaces et seul le hasard de la préservation du site peut expliquer la quantité des objets retrouvés. D'ailleurs, notre sanctuaire est organisé de la même manière que les autres sanctuaires de source, comme nous le verrons. Attribuons d'abord ces édifices à des divinités, ce qui est possible grâce aux inscriptions et aux statues retrouvées. En entrant dans l'enceinte cultuelle, on tombait d'abord, comme je l'ai dit, sur le petit temple carré. Devant cette chapelle carrée, on trouvait un autel en épigraphe, puis une statue de Sirona. On a encore des problèmes. Donc toujours de la même divinité, Sirona. Une inscription à Sirona. Un bas-relief représentant Apollon et Sirona. Une dédicace à Mercure et à Rosmerta, un bas-relief aussi à Mercure et à Rosmerta, ainsi qu'enfin un autel avec un bas-relief avec Apollon. Voilà d'abord l'inscription à Sirona qui semble lui attribuer le bâtiment, donc avec tous ses ornements, son décor. Voilà la statue qu'on attribue à Sirona. Vous me direz qu'elle n'est pas très reconnaissable, mais comme il y a les statues, de même que Apollon et Sirona ne sont pas très convaincants, mais ce sont toujours les mêmes objets qu'on retrouve et les spécialistes ont restitué comme cela l'inscription à Mercure et Rosmerta par Messor, l'affranchi de Canus, et enfin Mercure, Rosmerta, qui quand même sont un peu plus décents du point de vue du style. Et ensuite, il y a aussi un relief d'Apollon reconnaissable, cette fois-ci indubitablement, au griffon qui est à ses côtés. Deux inscriptions à Apollon se trouvaient également dans ce secteur, dont une qui est soit d'un Geminius similis, qui était soit medicus, soit mediomatricus. Là, évidemment, nous ne pouvons pas dire grand-chose de plus. À côté de ces... D'après la dédicace à Sirona, l'édifice carré devrait lui appartenir. Le bâtiment rectangulaire contenait aussi une base dédiée à Sirona. Mais à côté de cette base à Sirona, on y a trouvé aussi un buste d'Apollon et deux fragments de statues d'Apollon ou de Mercure. Donc, un certain mélange dans le temple carré et dans le bâtiment rectangulaire, on ne sait pas très bien les discerner. Ce qui est intéressant avec vous avez la même chose pour Apollon, l'un des temples lui était attribué, donc c'est assez énervant. Ce qui est intéressant avec ce bâtiment rectangulaire, c'est l'emplacement de la porte. Et j'ai fait un petit dessin là pour vous montrer que cette forme de bâtiment est très bien connue des archéologues grecs ou hellénistiques. C'est la forme typique des salles de banquet, parce que le désaxement de la porte permet d'y mettre des lits de table tout autour. Et si vous mettez plusieurs lits avec des tables, n'est-ce pas, vous pouvez coucher toute une série de personnes dans cette salle de banquet. C'est une possibilité. Sinon, on ne voit pas très bien pourquoi cette forme étrange de bâtiment. Près des bâtiments méridionaux, on a découvert trois dédicaces à Apollon, dont celle que vous avez vue, qui évoque un temple. Alors, comment attribuer maintenant ces temples entre Apollon, Sirona, Mercure, etc. Je dirais que, comme les fouilleurs, dans la mesure où on a trouvé plusieurs fragments d'une statue de Sirona, je crois qu'on peut placer Sirona dans le bâtiment avec la source, n'est-ce pas ? Avec son serpent, il y avait plusieurs fragments dans ces trous, donc dans les fouilles qui ont été trouvées à cet endroit, donc je crois que cela, c'est certain. Pour les autres, j'attribuerais peut-être le bâtiment carré à Apollon et puis la salle rectangulaire à tous les deux. Je ne sais pas, on ne peut pas aller plus loin. Il y avait d'ailleurs devant ce bâtiment hexagonal une autre statue encore de Sirona. Donc vous voyez que tout le site était rempli de dédicaces et d'autels comme à Deneuvre, hein, où vous avez des dizaines et des dizaines de stèles qui sont ajoutées chaque année au gré des célébrations, des vœux, des fêtes. Et quand nous les retrouvons, n'est-ce pas, il est souvent très difficile de les attribuer. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'Apollon possédait une Aïdès, un bâtiment cultuel, un temple. Sirona possédait une Aïdès. Est-ce que Sirona possédait uniquement celle-là ? Est-ce qu'elle possédait la salle de banquet ? On ne sait pas, enfin, que j'interprète ainsi. Apollon avait, enfin, un autre bâtiment. Je dirais, Apollon avait le bâtiment carré, Sirona, le bâtiment hexagonal, et pour tout le reste, les offrandes se distribuaient sur tout le site. On ne va pas s'y attarder. Apparemment, d'autres divinités sont également présentes. Mon interprétation, je vous le signale, est la même que celle de Lothar Schwinden qui a repris cette publication. D'autres divinités, comme je l'ai dit, sont présentes. Mercure et Rosmerta, que vous avez vu. Il y a aussi Minerve. Et pour ce qui intéresse notre intérêt, notre recherche, la source jaillit une fois de plus, vous l'avez vu, dans un bâtiment templaire, et elle n'est accessible que dans le puits hexagonal, je dirais. Et de là partent des conduites d'eau qui rendent l'eau utilisable. Une fois de plus, donc, on a ici la zone sacrée. Ici, à mon avis, on ne faisait rien, mais ici, il y a un puits qui n'est absolument pas aménagé autrement, qui est un puits à puiser, et d'où partent aussi des conduites d'eau. Je dirais donc, Sacer, profanum. C'est ainsi que je lirai, que je déchiffrerai la topographie conformément au schéma maintes fois relevé dans les cours précédents. Donc on peut ajouter cet élément, cet exemple original en raison de son caractère privé à notre liste. Alors que tous les sanctuaires de sources que je vous ai montrés jusqu'à présent sont incontestables, il existe néanmoins parfois des sanctuaires imaginaires. L'un des plus grands est celui de Lénus Mars à Trèves. Donc vous voyez où se trouve Trèves, au milieu de la cité des Trévires. Le temple de Lénus Mars est situé à l'extérieur de la ville, de l'autre côté de la Moselle, sur les pentes des collines qui mènent justement vers Béda, vers Bitburg. Et il est situé notamment à l'extérieur de la ville, comme il convient en droit sacré romain pour un temple de Mars. Au moment où il a été construit, Trèves était colonie latine. Il comprend un grand temple construit sur des terrasses prises sur la colline, une enceinte avec des édifices cultuels faisant office de lieu de dépôt d'offrandes et de lieu de culte secondaire. Il comprend aussi ici des thermes situés et rejetés à l'extérieur, n'est-ce pas ? Il a aussi de ce côté un théâtre, qui ne vous étend pas du tout, et une voie, enfin, mène vers le temple. Cette voie ici, et de part et d'autre, je vous l'ai montré, vous avez des exèdres qui, les inscriptions nous le prouvent, permettaient aux délégués officiels des pagis, c'est-à-dire des circonscriptions territoriales de la colonie latine des Trévires, de se réunir les jours de fête au temple de Lénus Mars qui était le grand dieu des Trévires, le dieu principal. J'ai pu attirer l'attention, voici une quinzaine d'années, sur l'importance de ce lieu de culte dans la cité des Trévires et aussi pour reconnaître, pour comprendre l'aménagement de lieux de culte. Nous sommes en province, nous sommes dans une colonie en Gaule-Belgique, mais ça n'empêche pas que le lieu de culte, que l'espace cultuel est purement romain et peut être directement utilisé et lu par nous. Avant, il n'y avait rien à cet endroit. Siège du plus grand dieu de la colonie, Lénus Mars, qui traduit certainement un grand dieu Trévire précédent, le temple et son culte réunissaient donc chaque année, à des dates malheureusement inconnues, l'ensemble des représentants des pagis Trévires au chef-lieu, avec les autorités suprêmes de la colonie, notamment avec le flamine de Lénus Mars. Voilà. Voilà pour le contexte. Or, dans le contexte autre, le contexte folklorisant typique du XIXe siècle, on a voulu faire de ce lieu de culte, public et politique, donc, comme je viens de le dire, un sanctuaire de sources, guérisseur. Les arguments sont plutôt maigres. Si l'on reconnaissait toujours le caractère important du sanctuaire, au pied de la colline appelée Markusberg, Marksberg, ou vous l'attendez déjà sans doute Marsberg, sur lequel se trouvait le Heidenkopf, le puits des païens, le reste dérivait du folklore. Pour ne donner qu'un exemple, le nom du Marksberg ne vient pas du dieu Mars, mais du saint Marcus, saint Marc, qui possédait une chapelle sur cette colline. Et donc c'est un nom très récent. Erich Kause, le fouilleur très compétent du site, qui a exploré ce sanctuaire de façon remarquable à partir de 1925 et qui a en outre réussi à en publier les résultats 30 ans plus tard, rapporte dès les premières phrases que durant la fête de Saint-Marc, Markusfest, on achetait encore dans les années 50 à la chapelle du Saint des petits oiseaux en terre cuite et qu'avant la Première Guerre mondiale, on sacrifiait, comme il disait, des petits corps, des Körperchen. Enfin, je suppose que cela signifie qu'on les offrait dans l'église de Saint-Marc, des Körperchen, des corpora, de cire, en cire, qui rappelait aux folkloristes, évidemment, les petits ex-voto en terre cuite des Romains. Sur le Heidenkopf, c'est ainsi que s'appelle ce mamelon, cette colline, naît une source, la Heidebohr, le puits des païens, qui se mélange à d'autres sources pour former avec elle un petit ruisseau qui coule ensuite dans la vallée vers la Moselle. Cette eau serait guérisseuse et aurait déjà guéri, d'après une légende, l'archevêque médiéval Baudouin de Trèves de la lèpre. Dans les années 50 encore, continue Gauze, la fontaine aurait gardé son caractère guérisseur et on aurait notamment traité au printemps les affections des yeux. Allait-il de même à l'époque romaine ? Il est inutile de dire que l'eau, c'est de l'eau de robinet, moins le chlore, mais il n'y a rien de spécial dans le Heidebohr. Ce ruisseau a été en fait canalisé par les Romains. L'aqueduc a été détecté au nord du lieu de culte et passe à côté du sanctuaire de Lenus Mars à travers l'espace, on le voit là, à travers l'espace trapézoïdal de façon souterraine. Là, il sert à alimenter un petit bassin qui se trouve ici, et bien sûr aussi les thermes. Et puis l'eau se répartit et va aussi vers le temple où il devait alimenter des fontaines où on pouvait se laver, des vasques, et aussi vers le théâtre. En outre, je l'ai dit, les thermes utilisent cette eau. A priori, donc, je ne plaiderai pas pour un sanctuaire des eaux, car d'après tout ce que nous avons vu, le culte des divinités de source est toujours organisé à l'endroit où jaillit une source et non pas à l'endroit où aboutit cette source, où elle est utilisée par les mortels. En outre, à Trèves, l'eau arrive déjà canalisée dans un aqueduc pour aboutir dans ses bassins et dans les thermes, ce qui ne convient pas pour une source sacrée qui, en général, est captée telle qu'elle apparaît, n'est-ce pas, sous la forme où elle apparaît. Ce n'est qu'ensuite qu'elle peut être canalisée dans un aqueduc, etc. Pour toutes ces raisons, je pense que le ruisseau aqueduc du lieu cultuel de Lenus Mars est trivial et non structurel. L'un des arguments provient de ce que dans l'espace trapézoïdal, où vous avez ici à côté du temple, on est découvert dans la chapelle à niche qui se trouve en haut. Voilà cette chapelle à niche. On a trouvé dans cette chapelle, qui sont des dépôts d'ex-voto, un autel tronc d'offrande. Vous voyez en haut, il y avait un couvercle pour faire des offrandes et l'inscription mentionnait Lenus Mars et les Sulxigiae. Or, ces dernières semblent aussi avoir possédé le petit temple à l'extrémité du périmètre trapézoïdal. Une autre dédicace de Dea Sulevia, à la Dea Sulevia, a été trouvée devant le temple de Mars, dans ce secteur. Or, cette inscription à la Dea Sulevia, certains lisent aussi, croient que c'est un pluriel, Deae Suleviae, au lieu d'un datif, enfin les deux interprétations peuvent valoir. La présence de ces Deae Suleviae et des Xulxigiae a donné lieu à toute une sorte de raisonnement qui s'appuie en partie sur la Dea Sul, la Sulis Minerva de Bath, que nous avons vue, et je l'avais signalé à l'époque. Le parallèle linguistique ou étymologique entre les Sulxigiae de Trèves et la Dea Sulis de Bath a suffi, avec la théorie du paysage religieux intact et toujours actif dans la population indigène, aux yeux des folkloristes, pour fonder l'étrange théorie que ce grand sanctuaire politique des Trévires serait un sanctuaire de guérison. Et même Mars était récupéré dans cette interprétation, parce que c'est un peu gênant de faire de Mars un dieu guérisseur. En effet, au grand temple de Lenus Mars, au Martberg, près de Koblenz, n'est-ce pas, c'est un grand oppidum Trévire avec des temples d'époque laténienne et qui ensuite, sous l'Empire, devient un grand temple en dur, construit en dur. Eh bien, dans ce grand temple, qui est sans doute le berceau de ce culte des Trévires de la rive gauche de la Moselle, existe une dédicace versifiée en grec et en latin, selon laquelle le dieu Mars a délivré un certain Tuchicus de peine qui l'ont mené aux limites de la mort. Par conséquent, Lénus Mars serait un dieu guérisseur, et son association aux nymphes Sulcigiae, les mêmes que Dea Sulis à, ou Dea Sul à Bath, serait normale, c'est QFD. Mais comme j'ai eu l'occasion de le souligner déjà, Mars agit, d'après cette inscription, non pas comme un guérisseur, mais comme un défenseur dans le danger, conformément à son mode d'action le plus commun, la défense violente de ceux qui l'invoquent. Il sauve, servatus, n'est-ce pas, saoteis, il met en fuite, profugain, dans la version grecque, et c'est de cette manière qu'il sauve Tuchicus, qui avait, on ne sait pas quoi, n'est-ce pas, la fièvre ou quelque autre maladie. En outre, le lieu de culte, il n'est même pas sûr. Oui, enfin, il a des problèmes psychiques et autres. Bon, admettons qu'il ait été malade. En outre, le lieu de culte dont cette inscription provient n'est une fois de plus en rien un sanctuaire de guérison et un sanctuaire de source. Il n'y a même pas de source. C'est ça qui est un peu gênant. Mais il a tout à fait l'air d'être, encore une fois, un très grand sanctuaire politique des Trévires et d'avant la période de la conquête. Donc tout cela, ce sont des châteaux de cartes que les archéologues et les historiens montent parfois pour leur plaisir, mais qui reposent sur des bases assez fragiles. Quant aux ex-voto épigraphiques et figurés du sanctuaire de Lénus Mars de Trèves, qui font référence à des vœux privés pour le salut d'enfants, il s'agit en fait, comme Tonderx l'a naguère démontré de façon tout à fait convaincante, de vœux liés à des rites de passage de ces enfants quand ils franchissaient un certain âge, comme ceux des Liberalia, par exemple, à Rome, quand les enfants, les garçons, deviennent majeurs. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'ils acquittaient des vœux. À Trèves, comme ailleurs dans le monde romain, l'acquittement de ces vœux marquait le passage des enfants d'un âge donné dans un autre statut, l'adolescence, la majorité ou tout ce que vous voulez. Et l'observation de Derx pourra aisément être étendue à d'autres lieux de culte et à d'autres ex-voto de ce type. Autrement dit, l'argument à Trèves enchaîne des documents mal interprétés ou impossibles à interpréter. Ainsi, le sens précis et la fonction des Xulcigiae n'est pas connu, et malgré la ressemblance purement extérieure avec Sulis Minerva ou les Suleviae, eh bien, il vaut mieux considérer qu'on ignore ce que cela veut dire et que les Xulcigiae, par exemple, je trouve qu'il est plus sain de les considérer avec Tonderx comme des divinités topiques du lieu autrement inconnu. Elles sont associées en ce lieu à Lénus Mars, mais nous ne savons pas à quoi elles servaient. Et vous avez déjà, j'ai donné déjà, il y a quelques leçons, une idée de ce que pouvaient signifier les Suleviae. On avait l'impression qu'il s'agissait de tout autre chose que de l'eau ou de choses de guérison de ce type. Donc, nous ne compterons pas ce grand lieu de culte magnifique parmi les sanctuaires de source, et donc nous pouvons le quitter sans regret. Nous prendrons notre bâton de pèlerin et nous descendons un peu vers le sud-ouest où nous raconterons un autre site qui pose des problèmes beaucoup plus graves d'identification et de compréhension, celui de Grand, dans les Vosges, dans la cité des Leucs. Le site est sans aucun doute beau. Il comprend une superbe mosaïque, un théâtre, amphithéâtre, et d'autres découvertes importantes. Il est aussi un bel objet scientifique, car on ne sait toujours pas quoi faire de ce site. Et notamment, on ignore toujours s'il s'agit d'un sanctuaire de source, ou plus exactement d'un sanctuaire d'Apollon associé à une source. Outre l'identification de la nature du site, Grant pose un deuxième problème important, celui qui est historique cette fois-ci, c'est celui d'une hypothétique visite de Caracalla et de Constantin. Mais évidemment, les visites de ces messieurs sont dues au fait que, justement, elles servent d'argument dans la démonstration qu'il s'agit d'un grand site de source et de guérison. Enfin, la découverte à proximité du site central de deux tablettes astronomiques en ivoire ajoute une question supplémentaire au dossier. Tous ces problèmes sont liés et on a parfois l'impression que les raisonnements censés y apporter une solution sont en fait circulaires. Le problème de la visite de Caracalla en ce lieu est sans doute le problème le plus simple à résoudre. Une théorie qui remonte à Camille Julian et qui est antérieure à l'exploration archéologique du site suppose qu'en 213 après Jésus-Christ, après la campagne contre les Germains, l'empereur Caracalla se soigna à Grand auprès d'Apollon Granus, le dieu qui aurait donné son nom au site moderne de Grand. Caracalla, qui se trouvait très mal sur tous les points, plan parce qu'il avait assassiné son frère, etc. C'était un monstre, donc il est normal qu'il se trouve mal, qu'il soit malade. Et il cherche auprès de tous les médecins et Dieu un réconfort. L'hypothèse remonte à un témoignage de Cassius Dion, qui dans son histoire romaine, au livre 77 et non 78, comme on le lit toujours, il est vrai, dans la version résumée par le byzantin Xiphilin, rapporte que l'empereur, atteint de souffrances physiques et psychologiques, consulta les dieux. Je traduis. « Mais aucun des dieux eux-mêmes ne lui donna une réponse qui aboutit à la guérison de son corps ou de son esprit, bien qu'il honorât les plus illustres. Cela signifie qu'il ne tenait pas seulement compte de ses offrandes votives ou de ses sacrifices, mais seulement de ses objectifs et de ses forfaits. En effet, ni Apollon Granus, ni Asclépios, ni Sérapis, malgré ses nombreuses supplications et sa grande persévérance, ne l'écoutèrent. On a considéré que ce passage ne prouvait pas qu'il s'était lui-même rendu dans l'un de ses sanctuaires qu'il envoyait, n'est-ce pas, des messagers avec des dons. En lisant toutefois la suite du passage, on se rend compte que le texte ne dit pas exactement cela. Le texte que l'on cite continue en effet et raconte que l'empereur envoyait à ses dieux de nombreux messagers porteurs de prières, de sacrifices, d'offrandes votives, des délégués. Et enfin, je cite, « Il se rendit lui-même auprès des dieux, pensant que sa présence en personne pour bénéficier d'une... sa présence en personne était plus utile pour bénéficier d'une attention majeure. Et il fit tout ce que les dévots faisaient sans obtenir rien qui aide à sa santé. » Donc ce texte peut tout à fait signifier que notre ami Caracalla s'est rendu en personne, et pas seulement par messager interposé, à Grand, en tout cas auprès d'Apollon Granos. Ce qui rend en revanche difficile cette hypothèse tient à la chronologie et à la logique des déplacements de l'empereur en 213. On sait que Caracalla s'est rendu en Narbonnaise au début de l'année 213, puis il est remonté en Germanie supérieure, puis en Récie vers la Suisse, de Mayence vers la Suisse, n'est-ce pas, où il aurait remporté sur le Main une victoire sur les Alamans, une fois qu'il était entré en Allemagne, en Germanie libre. Une victoire sur les Alamans que les frères Arval, encore eux, célèbrent le 11 août par un sacrifice, dont l'intitulé est que l'empereur va franchir la frontière de Récie en entrant sur le territoire pour exterminer les ennemis afin que cette entreprise se passe de façon heureuse et favorable. Nous sommes donc avant l'entrée sur la terre des Germains, des Alamans, et nous sommes avant cette bataille, cette campagne et cette victoire. C'est le 11 août qu'il entre. Donc nous sommes déjà au seuil de l'automne. Le 6 octobre suivant, les Arval sacrifient des divinités à 11, des victimes à 11 divinités pour le salut et la victoire germanique de l'empereur César Marcus Aurelius Antoninus. Or, si les Arval sacrifient en ce jour, du 6 octobre, pour le salut et la victoire germanique de l'empereur, etc., cela veut dire en principe que la victoire a été obtenue. Si elle n'était pas encore certaine, les prêtres émettraient des vœux, ou alors ils confirmeraient par un sacrifice les vœux précédents en en formulant de nouveaux pour la victoire. Mais je crois qu'ici, c'est assez clair, ils immolèrent au nom du collège des Arval, etc., parce que... je ne trouve pas le passage maintenant. Pour le salut et la victoire germanique. Donc, on sacrifie parce que c'est acquis. Alors que le sacrifice précédent, le 11 août, sanctionnait par un sacrifice le passage de la frontière. N'est-ce pas ? On entre désormais sur terrain ennemi. Le 6 octobre, c'est fini. Donc, dans notre texte, on dit simplement que la campagne est terminée, elle s'est soldée par une victoire. Donc c'est quelque part vers le début octobre, fin septembre, début octobre, que la nouvelle est arrivée à Rome et que Caracalla était donc désormais prêt pour entamer la poursuite de son voyage. Or, d'après Cassius Dion, les consultations oraculaires que j'ai citées auprès d'Apollon, Granus, etc., de Caracalla, se placerait entre la campagne contre les Alamans et son entrée en Thrace, d'où il gagna l'Hellespont, qu'il traversa peu avant la mi-décembre. Donc, c'est après le 6 octobre qu'il commence ses consultations auprès des dieux guérisseurs. Et ça se termine quelque part avant la mi-décembre. Mais à la mi-décembre, il faut déjà qu'il soit à Constantinople, n'est-ce pas ? Vous avez compris. Ou à Byzance, à l'époque. Comme on se l'est déjà demandé à bon droit, l'empereur allait-il revenir de Récie, c'est-à-dire de la Suisse, où il se trouve, et d'où il va partir pour aller vers Sirmium, en Croatie actuelle, puis de là vers la Thrace, où il passa en décembre 213 et non 214, comme on le croyait jusqu'à récemment, en Asie mineure. Quand la chronologie est allongée, évidemment, c'est possible. Il y a toute une année à passer, mais comme ça se passe en très peu de temps, eh bien, c'est bien ainsi. Est-ce qu'il va, à ce moment-là, faire ceci, revenir à grand et repartir dans ce sens-là ? Je pense que ce n'est pas très logique dans ses déplacements. Pour le naufrage de Caracalla, il a eu quelques problèmes en passant en Asie mineure, au Bosphore. Là encore, grâce aux Arval, on a des sacrifices qui saluent cela et qui permettent de dater ce passage avant les Saturnales de l'année 213. Donc, le retour à Grand me semble, après le 6 octobre, où il a un mois et demi pour aller jusqu'au Bosphore, n'est-ce pas, me semble devoir être exclu. D'autant plus que parmi les autres sanctuaires d'Apollon Granus, il en existe un qui semble tout particulièrement se prêter à la visite de Caracalla. Il s'agit de celui de Feimingen, qui se trouve à cet endroit, et Caracalla, je le mets comme cela en récit, n'est-ce pas ? Vous voyez que Feimingen est juste à côté, à trentaine, cinquantaine de kilomètres. Ce n'est pas aussi loin que Grand. Et autre problème, c'est que ce lieu de culte de Feimingen est explicitement consacré à Apollon Granus. Nous avons une belle inscription là, et à Hygia. ce qui n'est pas le cas du tout à Grand. On n'a toujours pas, j'y reviendrai, on n'a aucune attestation que Grand, qui ne s'appelait d'ailleurs pas Granus ou Granum ou Aquae Grani à l'époque, ait jamais eu un lieu de culte d'Apollon Granus. D'autre part, à Faimingen, on a trouvé aussi ce beau temple d'Apollon Granus, n'est-ce pas, qui est donc tout à fait attesté et qui se trouve donc pratiquement à l'endroit où l'empereur devait séjourner après la campagne contre les Alamans. La plupart des historiens aussi identifient le dieu en cause chez Cassius Dion à celui de Faimingen. L'identité du dieu donc ajoute une difficulté supplémentaire à l'histoire du retour à Grand, comme j'ai dit. Une seule inscription de Grand s'adresse, certes, à Apollon, sans prouver par sa taille qu'il s'agissait, que le dieu en question occupait un grand temple à Grand. Et surtout, elle nomme seulement Apollon, sans Granus. L'épiclèse Granus n'est en fait jamais indubitablement attestée à Grand. Dans un cas, sur l'inscription du tribun Considius, elle est restituée, une restitution même vérifiée sur place, qui ne me convainc pas, parce que vous avez juste quelques bouts de lettres au bord de la plaque qui, si la machine m'aidait un peu, je pourrais vous le montrer, qui ne me convainc absolument pas. D'autant, alors voilà, je vais vous montrer d'abord cette belle petite chose de la franchie de Sylvanus qui acquitte un petit vœu à Apollon, mais pas Granus. Puis vous avez ici cette inscription du tribun Considius ou Consinius en haut pour lire Grano. Il faut un certain don d'imagination, je crois. Et le fait que Somno Iussus, là aussi on en a fait toute une histoire, il a reçu l'ordre au cours d'un songe, ce n'est pas extraordinaire, c'est une certaine banalité, même à Grand, où vous avez une inscription près de l'amphithéâtre où ex Iussu Deae Dianae, sur l'ordre de Diane, on reçoit l'ordre de dresser une statue de Jupiter et Hippolytin, etc. C'est une formule relativement banale et ça ne permet pas de restituer Apollon immédiatement comme destinataire de cette inscription. Sur deux autres pierres, la première ligne, encore elle, est si lourdement mutilée que sa lecture ne fait pas du tout l'unanimité. Et à chaque fois, on voulait y reconnaître Granus. Elle est notamment contestée encore naguère, dans celle-là, n'est-ce pas ? Et dans celle-là, là-haut aussi, pour reconnaître Grano, il faut un peu d'optimisme. Et tout cela a été contesté par Jeanne de Marolle et par Anne Daguet dans ce volume concernant la mosaïque de Grand. Enfin, sur une troisième inscription, on trouve effectivement les lettres Ni, n'est-ce pas ? Mais évidemment, qui nous dit que c'est Grani plutôt que Annie ou Britanniki ou que sais-je, n'est-ce pas ? Bref, les données épigraphiques telles que nous les connaissons actuellement à Grand sont des données sur lesquelles on ne peut pas fonder une théorie solide. Alors qu'en revanche, vous l'avez vu à Faimingen, on n'a pas à louvoyer, il y a une superbe inscription, il y a aussi un temple, chose qui est moins sûre aussi à Grand. Notons en passant qu'à Grand, une inscription prouve aussi que Jupiter, Maximus et Conservator y possédaient aussi un temple, mais on ne sait pas où il est. Plus sérieux comme indice sont les documents de l'Empire tardif, de l'Antiquité tardive, un panégyrique de Constantin et puis un poème d'un rhéteur marseillais qui semble faire allusion à un Apollon des Leucs qui est guérisseur. Et ensuite, quand vous comparez la maigreur du dossier, mais là encore, rien ne le prouve, n'est-ce pas, que Constantin soit allé à cet endroit. Rien ne prouve non plus que Apollon guérisseur chez les Leucs, qui est médecin chez les Leucs, ça peut simplement être Apollo Medicus, mais ça ne veut pas dire qu'il est Apollo Granus, parce que Granus n'est pas prononcé. Tout cela ne prouve rien, en fait. Et quand vous prenez en main ensuite le dossier archéologique, qui est intéressant, passionnant même, vous découvrez une fois de plus qu'il n'y a ni temple, ni source même, et qu'on patauge, n'est-ce pas, dans le noir. Donc je crains, et je vous le dirai la fois prochaine, que là encore, le sanctuaire de Grand, pour le moment et dans l'actuel état des recherches, doit quitter notre liste des sanctuaires de sources. Ce que je regrette, mais c'est bien ainsi. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.